Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie.
Et circuit court toute cette semaine jusqu'à 14h. C'est en direct du Salon de l'Agriculture sur l'espace France Terre de Lait. Une émission que vous pouvez suivre en vidéo sur la page Facebook Europe 1 grâce au Facebook Live. Avec toutes vos questions, vos réactions et avec Anne Le Gall et Sébastien Guyot.
Un circuit court pour mieux vivre dans un monde qui change. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Alors, quel est le programme du jour, s'il vous plaît ?
Aujourd'hui, on célèbre la technologie dans les champs, rien que ça. Parce que oui, même si les robots et les machines ne peuvent pas remplacer les agriculteurs, ils peuvent quand même leur éviter des pertes de temps, leur permettre d'optimiser les traitements et l'arrosage. Internet et le numérique peuvent les aider à partager du matériel ou des conseils. Comment la technologie facilite le quotidien des agriculteurs ? On en parle jusqu'à 14h avec nos deux invités qui sont des pionniers de la ferme numérique.
Une émission en format exceptionnel, vous l'aurez compris, nous sommes jusqu'à la fin de la semaine, tous les jours ici au stand France Terre de Lait, au Salon de l'Agriculture, en public, nombreux face à nous. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez Isabelle Saporta. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Avec son regard vif et sa plume tranchante.
Merci.
Le portrait du jour de Cyril Ariel aussi, avec un ancien financier reconverti aujourd'hui dans le commerce équitable avec la culture de quinoa. Et votre nouveau rendez-vous avec Paul Lassène. Bonjour Paul.
Bonjour Sébastien.
Vous allez dénicher pour nous les bonnes idées dans les allées du salon. Et aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vous propose de visiter des exploitations agricoles avec la start-up Mon Beau Terroir.
Et pour réagir durant l'émission, il y a bien sûr Internet et les réseaux sociaux. On prendra aussi les questions ici dans le public. On attend vos messages sur Europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag E1CC. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Soyez les bienvenus dans Circuit Court. Bonjour Mickaël Jacquemin.
Bonjour Anne.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes agriculteur, éleveur à Lignon, dans la Marne. Vous êtes aussi vice-président de l'association CoFarming et vous avez créé le site échangeparcelles.fr. Vous allez nous en parler dans un instant. À vos côtés, nous accueillons aussi Florian Breton. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes également agriculteur et geek. Vous avez fondé Mimosa, une plateforme de financement participatif, et la ferme digitale. Vous faites la promotion des nouvelles technologies dans les exploitations. Vous nous expliquerez pourquoi les agriculteurs ont tout à gagner à être connectés.
Et à vos côtés, elle est aussi connectée et branchée, Isabelle Saporta, notre spécialiste du monde agricole et de l'alimentation. Elle va décortiquer, messieurs, tous vos propos.
Attention,
tout ce que vous direz contre vous pourra être retenu contre vous. En préambule, Isabelle, rapidement, les agriculteurs connectés, c'est de plus en plus répandu ?
Mais oui, c'est de plus en plus répandu. Et en fait, si vous voulez, soit on a une vision de la technologie à la Jacques Tati, vous savez, mon oncle, ce film où tout était complètement aberrant parce que tout était technologique, soit on a une vision finalement pragmatique. Et ce que je trouve très bien avec nos deux invités aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit effectivement la question de pouvoir se rapprocher les parcelles, ou de faire des fraises bio en Sologne, ou du miel, ou de l'œnotourisme, etc., etc. Écoutez, moi, je trouve génial que finalement, on simplifie la vie des paysans d'un côté, que de l'autre côté, effectivement, la société civile puisse s'emparer de l'agriculture, parce qu'au fond, l'agriculture, c'est notre affaire à tous.
Mickaël Jacquemin, on le disait, vous êtes branché nouvelles technologies et en plus, vous êtes le vice-président de l'association CoFarming. C'est quoi le CoFarming ?
CoFarming, c'est une association qui a vocation à réunir justement des start-up qui ont pour objet de mettre en relation les agriculteurs entre eux. Vraiment, la notion de réseau. On a tous intérêt à se rapprocher et à échanger un maximum.
Alors, quel type de service, par exemple, le co-farming permet de se rendre aujourd'hui entre agriculteurs, ce qui n'existait pas avant ?
Alors, ça existait avant, mais sur des périmètres relativement restreints.
C'était le voisinage,
groupe.
En fait.
C'était le groupe, le voisinage, le village. Aujourd'hui, l'outil Internet nous permet, donc la puissance de l'outil Internet nous permet d'aller au-delà. Et donc, c'est là qu'on a la notion de réseau. Donc, ça nous permet de mettre à disposition du matériel pour éventuellement l'échanger, le louer. Des parcelles éloignées, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est mon sujet. C'est aussi des compétences. On a des agriculteurs qui ont des compétences sur un sujet très précis, qui savent régler tel matériel qui vient juste de sortir high-tech et qui sont prêts à le mettre à disposition ces compétences de leurs voisins, proches ou voire même très éloignés. Et c'est aussi se mettre en relation pour comparer nos chiffres, qu'ils soient techniques ou économiques. C'est important qu'on puisse se comparer entre nous. Et tout ça dans l'objectif, clairement, gagner des points de compétitivité, parce que l'agriculture en a besoin aujourd'hui.
Alors,
il y a un peu plus d'un an, vous avez créé échangeparcelles.fr. À quoi ça sert ? Expliquez-nous le concept.
Eh bien, en fait, moi, je suis agriculteur dans la Marne, sur une exploitation relativement diversifiée, grande culture, etc. Et mon père, mon grand-père et moi-même, j'ai eu des opportunités foncières. Donc, on a réussi à obtenir des nouvelles terres. Le foncier est souvent morcelé. C'est lié aussi aux successions.
Des histoires de famille.
Des histoires de famille.
Et donc, comme dans le film de Clapiche.
Voilà. Et donc, il y a un moment, quand on se promène sur la route avec son tracteur, on n'est pas très performant. Et souvent, on embête aussi les citadins qui, derrière, klaxonnent. Ouais. Donc, on a tout intérêt à rapprocher nos parcelles. Et alors, quand on peut, par voisinage, par connaissance, ben on essaye de trouver une solution, on se tape dans la main, on échange les parcelles, simplement, sans notion de propriété. Hein.
Et ça fonctionne sur la base d'un algorithme.
Ça a toujours fonctionné. Et là, je me suis dit, autant utiliser cette puissance de l'outil Internet et mettre en relation des agriculteurs qui ne se connaissent pas forcément. Donc les agriculteurs s'inscrivent, et derrière, on a un algorithme. Donc c'est l'intelligence artificielle qu'on met vraiment en œuvre et qui va faire des calculs d'opportunités pour mettre en relation les agriculteurs entre eux sur cette problématique de parcelles éloignées.
Et vous avez mis en relation combien d'agriculteurs depuis un peu plus d'un an ?
Alors aujourd'hui, ce sont 370 échanges qui ont été proposés sur toute la France. Et depuis l'inscription, donc depuis la mise en route donc, du service il y a un peu plus d'un an, ce sont plus de 17 000 hectares qui ont été inscrits sur le site.
Et derrière ça, ça veut dire moins de distance, moins de fatigue aussi pour les exploitants.
Bien sûr. Et puis, une meilleure capacité à observer ces cultures. On nous demande de produire autrement. C'est légitime, on l'a tous pris en compte. Mais pour pouvoir produire autrement, il faut observer. Et observer ces cultures, c'est si possible être à proximité pour pouvoir intervenir au bon moment.
Alors vous, Florian Breton, vous avez créé Mimosa avec deux i. C'est un autre exemple d'agriculture collaborative. C'est la première plateforme de financement participatif dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Cette plateforme finance quoi, par exemple ?
Alors, elle finance tout d'abord des projets d'installation et de création d'entreprise, à peu près 30% des projets que nous accompagnons depuis 3 ans, mais essentiellement des projets de développement d'activité, acquisition de foncier, de cheptel, de ruches, de plantation de vignes, par exemple, stabulation, bâtiment, etc. Donc, on est plutôt sur des projets de diversification et d'agrandissement aussi de l'outil agricole. Et en l'espace de 3 ans, donc vous le rappeliez, Anne, on est la première plateforme thématisée sur l'agriculture et l'alimentation. On a accompagné un peu plus de 1200 projets, ce qui représente à peu près 5 millions d'euros levés auprès du grand public est directement injecté dans l'agriculture et l'alimentation, ce qui fait de nous finalement un leader même européen sur la thématique puisqu'on est également présent depuis un an en Belgique.
Donc les particuliers peuvent prêter de l'argent ou faire un don pour soutenir les projets, c'est ça ?
Tout à fait. Alors historiquement, c'était à travers le don avec contrepartie, c'est-à-dire quand vous souteniez un projet d'ordre viticole, pour en rester à cet exemple, vous bénéficiez en contrepartie de produits comme des bouteilles de vin, des séjours à la ferme, des expériences inédites, etc. Et une des grandes innovations qu'on vient de lancer en ce début d'année, ce qui est révolutionnaire pour le monde agricole, c'est le prêt participatif. Désormais, vous avez l'opportunité en tant qu'agriculteur d'emprunter simplement et rapidement auprès du grand public, qui grand public y trouve un intérêt de placement d'épargne plein de sens, de transparence et en même temps avec un petit rendement attractif de l'ordre de 2 à 4%. Donc on invente d'une certaine manière le circuit court du financement entre la société civile et les agriculteurs.
Alors parlez bien, Florian Breton, dans le micro, hein, parce qu'on a l'ambiance des vaches autour de vous. Je sais que vous portez haut et fier les couleurs du Mimosa hein, sur vous encore cet après-midi.
Alors, est-ce que ces projets qui sont financés par les particuliers via votre plateforme auraient pu voir le jour autrement via des banques, par exemple ?
Alors, pour certains d'entre eux, non. Et c'est justement là où Mimosa assume son rôle d'alternative aussi quelquefois au système bancaire traditionnel. Mais souvent, on intervient en cofinancement, c'est-à-dire que l'agriculteur va faire le choix délibéré aussi de diversifier son plan de financement à travers un autofinancement, du financement participatif et un emprunt bancaire traditionnel.
Et vous avez en tête un exemple de projet financé grâce à vous qui n'aurait pas pu exister ?
Bien évidemment, notamment un exemple assez marquant puisqu'on parlait tout à l'heure de l'accessibilité du numérique pour tous. Mmh. Un éleveur de Primolstein en Normandie qui a 65 ans et qui a levé à travers notre plateforme près de 30 000 euros, près de 300 personnes, dont essentiellement, qui viennent essentiellement plutôt de sa région, donc de la Normandie. Donc c'est essentiel et c'est un lien social très fort avec les consommateurs.
Et c'est très concret. Je reviens à vous, Michael Jacquemin. Certains disent que vous avez créé avec échangeparcelle.fr le Tinder de la terre agricole pour casser la solitude du métier. C'est une expression qui vous plaît, qui vous heurte ?
Ah non, mais moi je suis tout à fait dans le principe. Hein. Ça peut paraître surprenant, utiliser le numérique pour créer du lien, mais oui, en effet, c'est un outil qui est exceptionnel, qui va permettre vraiment de mettre en relation là en l'occurrence c'est purement professionnel, hein. On n'est pas sur Tinder,
on est d'accord.
Purement professionnel, donc là, mettre en relation des agriculteurs, donc sur les différents sujets que j'ai évoqués, et le foncier en est un, ça fonctionne très très bien. Alors il y a peut-être quelques précautions qu'on a mis en œuvre, parce que le foncier pour un agriculteur c'est viscéral,
on est attaché à
c'est très très attaché. Donc il y a une petite notion de confidentialité. C'est pas le bon coin, c'est pas la peine d'aller sur échangeparcelle.fr pour voir les parcelles inscrites, vous les verrez pas. Il faut que vous fassiez confiance à l'algorithme qui va en fait vous faire des propositions d'échange possibles.
Mais comment on va jusqu'à faire confiance à un algorithme ? Il y a des protections contractuelles ?
Ah non, mais alors nous on vient simplement mettre en relation. comme Tinder. On met en relation. Après, on va pas voir ce qui se passe sous les draps. D'accord. Peut-être que les 370 échanges que j'ai proposés, peut-être qu'ils vont pas été, ils ont pas été jusqu'au bout. Parce que il y a la notion de confiance, il y a la notion, bah, c'est mon copain, c'est pas mon copain, etc., etc.
À côté de échangeparcelle.fr, il y a aussi échangepatate.fr. Eh oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Eh oui, ça paraît surprenant, mais bon, pour les producteurs de pommes de terre, ils savent de quoi je parle. Dès le lancement d'échange parcelles, on a été contacté par des producteurs de pommes de terre qui ont besoin, eux, pour le coup, de faire des échanges, mais annuels. Parce que pour faire une bonne pomme de terre et une agriculture raisonnée, on a besoin de faire un assolement. Et une pomme de terre qui est produit dans le contexte de l'agriculture raisonnée, on revient sur la même parcelle tous les 5-6 ans. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des parcelles, entre guillemets, neuves pour pouvoir arriver à cet objectif de rotation. Donc là, je mets en relation des céréaliers qui n'ont pas de pommes de terre et des producteurs de pommes de terre. Et ils font un échange juste pour un an. Donc le patatier fait des patates chez le céréalier et le céréalier fait des céréales chez le patatier. Voilà, c'est simple.
Et toute la mise en relation se fait grâce à Internet.
Voilà.
La suite de Circuit Court dans un instant. Comment le numérique peut aider le quotidien des agriculteurs? C'est notre thème du jour. Nous sommes avec Vickaël Jacquemin de échangeparcelle.fr et Florian Breton, fondateur de Mimosa. À tout de suite.
Et Circuit Court, ça continue jusqu'à 14h en direct du Salon d'Agriculture avec Anne Gall et Sébastien Guyot. Une émission que vous pouvez suivre en Facebook Live sur la page Facebook Europe 1.
Circuit Court en direct du Salon de l'Agriculture sur Europe 1.
Et circuit court en direct du salon, c'est jusqu'à 14h sur Europe 1, un circuit court 2.0 aujourd'hui, le numérique est dans le pré. On en parle avec vos invités, Sébastien Guyot et Anne Gall.
Émission consacrée en effet au développement du numérique dans l'agriculture, Internet et les réseaux sociaux au service des agriculteurs. On en parle avec Mickaël Jacquemin, vice-président de l'association CoFarming, et Florian Breton, fondateur de Mimosa avec deux i et de la ferme digitale.
On vient de voir comment le numérique peut favoriser l'entraide entre agriculteurs et la technologie peut aussi aider à optimiser une exploitation pour l'arrosage, pour le désherbage. On a parlé de robots qui désherbent tout seuls grâce à des capteurs. Il y a des logiciels d'exploitation avec suivi financier des parcelles. Il y a des boîtiers qu'on installe sur les tracteurs pour collecter des informations toute la journée. Et puis, il y a aussi ce petit drone qui fait faire des pas de géant à des exploitants des pays de la Loire. Écoutez bien, c'est un reportage du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon.
Un petit drone de 700 grammes et d'un mètre d'envergure, truffé de capteurs. Nous sommes sur un champ de blé à La Planche, Loire-Atlantique. Le pilote s'appelle Bruno Couillot.
Sa mission, c'est de photographier la parcelle. Et à partir de là, on pourra calculer la quantité d'engrais pour ajuster au mieux la fertilisation sur la parcelle. Donc maintenant, on va pouvoir le lancer. Alors là, on laisse le temps de prendre sa vitesse de pointière. Vous allez entendre les clics de chaque photo. Alors une fois que le vol est terminé, il nous suffit de récupérer la petite carte qui est ici où sont enregistrées les photos, les traiter et les renvoyer à l'agriculteur avec le conseil de quantité d'engrais à épandre.
C'est la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui met ce drone à la disposition des paysans geeks comme Gaël Drouet.
Là, l'avantage du drone, c'est qu'on a une analyse sur toute la parcelle, sur chaque centimètre carré. C'est par l'intensité de la végétation, hein, donc il a les capteurs, les photos qui sont faites là, ça marche avec les trois couleurs là. Et en fonction de ça, après, il y a des modèles qui ont été faits, et en fonction du modèle, on sait exactement où en est la plante.
Ça vous fait faire des économies, ça?
Ah oui, tout à fait, ça nous permet de piloter au plus juste et de ne pas avoir d'excès qui partent pour rien dans la nature. Et dans le sens inverse, de ne pas être en manque d'azote pour la plante et d'optimiser les rendements de la culture.
Ça vous coûte combien?
10 euros par hectare.
Et ça vous rapporte combien?
On peut monter à 60-100 euros de l'hectare en plus selon les années.
En 3 ans, 235 agriculteurs ont déjà sollicité David Leduc, spécialiste du drone agri à la Chambre.
On va vraiment faire de l'intervention chirurgicale. Si on voit par exemple un chardon, qui est une espèce invasive qu'on retrouve fréquemment dans les champs, bah, le chardon, on peut traiter le mètre carré où il y a le chardon. C'est ça l'objectif à moyen terme. On va éviter le développement de l'espèce invasive et on va surtout éviter d'en mettre partout alors qu'il suffit de traiter là où la plante elle est. C'est-à-dire qu'on divise par 4 l'usage de désherbants par exemple sur une parcelle.
La mutualisation s'impose pour l'instant, le petit bijou volant et surtout ses capteurs valent la bagatelle de 28 000 euros.
Le reportage de François Coulon pour Europe 1. La bagatelle de 28 000 euros, disait François Coulon. Est-ce que c'est ce genre de projet, Florian Breton, avec Mimosa, que vous pouvez soutenir à travers la plateforme de crowdfunding?
Bien évidemment, c'est typiquement le genre de projet qu'on peut soutenir. Mais c'est vrai que plus largement, on peut en revenir à l'innovation et à l'agriculture. J'aime bien rappeler que l'agriculture est un berceau d'innovation millénaire, que les agriculteurs ont toujours fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le numérique et l'innovation au sens large commencent à caresser les exploitations françaises, c'est aussi tout simplement parce que les territoires français sont bien mieux connectés qu'il y a quelques années. La ruralité était assez mal connectée en réalité jusqu'à 2010-2012, et désormais il y a une très grande tendance à l'agtech, donc aux start-up du numérique, qui apportent de vraies propositions de valeur aux agriculteurs, leur permettant bien évidemment de développer ce qu'on appelle l'agriculture de précision à travers les drones, à travers les stations météo, à travers les capteurs connectés qui envoient des messages à bas débit aux agriculteurs leur permettant de réduire l'utilisation des intrants et de l'irrigation. Donc on est dans de la durabilité aussi et dans de la transition environnementale, mais aussi de leur apporter une meilleure manière d'acheter tout ce dont ils ont besoin ou de financer à travers la société civile leurs projets.
Et quand vous dites que les agriculteurs sont connectés, vous arrivez à le chiffrer?
Bien évidemment, il y a de très très bonnes études, notamment du CIRPA aujourd'hui en France, qui indiquent que 87% des agriculteurs aujourd'hui sont connectés à Internet, et puis plus de 60% d'entre eux utilisent leur smartphone dans le cadre de leur activité professionnelle. On ne parle pas d'envoyer des SMS, là. On parle vraiment de prédiction et de précision dans le cadre de son activité professionnelle.
Alors justement, on a ici une question d'Alexandre, 11 ans, qui se trouve dans le public en face de nous. Alexandre se demande si dans les écoles d'agriculture, du coup, l'enseignement a changé pour s'adapter à cette offre numérique.
Pas totalement. Justement, c'est, la formation est essentielle, et c'est d'ailleurs un des constats que nous faisions quand on a créé à 5 startups l'association qui s'appelle La Ferme Digitale, qui réunit aujourd'hui un peu plus de 25 startups et qui expose au Salon de l'agriculture pour la 3e année consécutive sur près de 300 mètres carrés. C'était la nécessité aujourd'hui aussi de former les corps intermédiaires et de communiquer ensemble sur nos innovations. Dans les intermédiaires, il y a bien évidemment la formation, les lycées agricoles, mais il y a aussi les chambres d'agriculture, les syndicats, les collectivités, afin que ces derniers aussi soient des prescripteurs des innovations, parce qu'elles vont dans le sens et dans l'histoire, en tout cas s'inscrivent dans l'histoire de l'agriculture française.
La Ferme Digitale qui est présente, vous le disiez, en partenariat aussi, je crois, avec Airbnb, présent cette année pour la première fois sur le salon. C'est positif, ce partenariat?
Alors, c'est pas la Ferme Digitale qui est en partenariat avec Airbnb, c'est Mimosa qui a initié en réalité une collaboration sans précédent, justement. Le constat qui est le nôtre, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs, en effet, sont connectés à Internet. Ils passent par Airbnb pour proposer leur logement à la ferme. Airbnb est un acteur aussi de la dispersion du tourisme dans le monde rural, développe aussi des activités sur l'expérience, comme vous le savez, autour des métiers de bouche et de l'agriculture. Et donc, cela faisait sens pour nous de collaborer avec Airbnb et Bienvenue à la ferme pour, à la fois, à travers des collègues de crowdfunding sur Mimosa, collecter des fonds, quelquefois auprès de la communauté Airbnb, qui est un peu plus CSP+, un peu plus urbaine, voire internationale, et puis en même temps de diffuser les logements de nos agriculteurs pour solliciter de nouveaux débouchés. Et puis enfin, Airbnb apporte aussi des dotations entre 2 et 5 000 euros pour accélérer les projets de tourisme à la ferme des exploitants qui sont passés par nos services.
Michael Jacquemin, vous êtes donc vice-président de l'association CoFarming. Est-ce que vous pouvez nous donner encore des exemples de ces coopératives numériques qui sont en train d'éclore un peu partout en France?
Alors on est juste au début, hein. C'est clair, cette notion de réseau, et qu'il va falloir qu'on aille voir ailleurs et pouvoir se comparer et pouvoir vraiment mettre en avant ce réseau. C'est vraiment la vocation globalement de tous les corps intermédiaires, tous les organisations professionnelles historiques sont intéressés par notre dispositif, parce que c'est vrai qu'ils avaient une notion territoriale, de groupes, je l'ai évoqué, communaux, intercommunaux, cantonales, des coopératives qui commencent à prendre de l'ampleur. Et je pense que ce virage du numérique, c'est indispensable pour toutes ces organisations de le prendre. Et donc l'association CoFarming a vocation justement à s'ouvrir et d'incorporer et d'accueillir toutes ces organisations qui ont vocation à évoluer, et on est là pour les accompagner. Et d'ailleurs, un des gros messages que je veux faire passer et qu'on va faire en sorte, c'est en 2018, on organise le Tour de France du CoFarming.
Ouais,
donc
ça veut
on
dire
va faire 35 étapes sur toute la France avec une caravane.
J'allais dire oui, pas à vélo.
En caravane avec donc des véhicules qui vont être stickés à l'effigie de toutes ces nouvelles start-up et expliquer aux agriculteurs sur le terrain tous les outils qu'on va mettre à leur disposition pour qu'ils travaillent autrement, pour qu'ils puissent gérer autrement leurs exploitations. Parce que tous ces outils numériques, on en fait la promotion sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet, mais c'est pas forcément le levier de communication le plus aisé pour tous les agriculteurs, même si une bonne partie sont connectés. Il y a un moment, il faut qu'on aille les voir, il faut qu'on aille les voir chez eux pour leur expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est pas que dans les salons qu'on cible les agriculteurs.
Et pour votre idée, c'est de dire aussi qu'on échange de tout aujourd'hui, c'est-à-dire du fourrage, de la paille, des
voilà,
données techniques, économiques, etc.
Des conseils, des chiffres même, des
voilà,
données.
Voilà, clairement, des données pour pouvoir se comparer et vraiment gérer comme un vrai chef d'entreprise son exploitation.
Est-ce que le co-farming remet en cause l'ordre établi aujourd'hui ? Est-ce que les agriculteurs vous regardent, en tous les cas les grandes structures, n'apprécient pas votre développement ?
Ah non, au contraire. Je pense qu'ils ont besoin d'une petite impulsion et on est en train de leur donner cette impulsion pour qu'ils rentrent dans la boucle et surtout qu'ils perdent pas de temps. On l'a évoqué tout à l'heure par rapport à l'enseignement, par exemple. Il y a un moment, tout le temps qui est perdu, c'est du temps qu'on ne rattrapera pas. Et le monde agricole, clairement, on est sur une activité économique, concurrentielle. Et faut pas rêver, hein, nos voisins avancent.
Alors donc justement, nous, la France est plutôt en retard là-dessus ?
Ah non, mais il faut surtout pas qu'on prenne de retard. Parce que tous ces points de compétitivité, moi je parle beaucoup de compétitivité, d'économie, je suis agriculteur et je vis de ce métier. Donc j'ai absolument besoin en permanence de gagner des points de compétitivité parce que nos voisins, c'est la guerre commerciale quoi. Voilà. Il n'y a pas d'amis. Donc soyons les premiers et soyons vraiment moteurs sur tous ces dispositifs.
Henri Breton.
La France n'est pas en retard sur l'innovation et le numérique, au contraire, et c'était aussi un des constats qui était le nôtre quand on s'est regroupé avec la ferme digitale. On a tous finalement aujourd'hui des innovations qui pour certaines sont des innovations sans précédent, même d'ordre européen voire mondial. Pour autant, ce qui fera demain aussi que nos activités changeront d'échelle et permettront aussi de mieux collaborer avec l'ensemble des exploitations, c'est aussi le financement de l'Agtech en France. Aux États-Unis, donc l'année dernière, 5 milliards de dollars ont été investis dans l'Agtech. Les États-Unis ont très bien identifié les enjeux de l'alimentation.
Les pépites technologiques de
l'enjeu de l'alimentation, c'est aussi nourrir 10 milliards d'êtres humains à horizon 2050. Il faut remonter sur l'amont et donc sur l'agriculture. Israël est une très grande place aussi dans l'Agtech. Et il est aujourd'hui indispensable, voire urgent aussi, que les innovations françaises dédiées à l'agriculture puissent trouver une place très importante, voire même sur la place européenne, parce qu'on parle souvent de souveraineté alimentaire, mais la souveraineté aussi de la gestion de la data et du numérique, c'est un vrai enjeu aussi pour la France et les agriculteurs.
Et vous arrivez à convaincre le public là dans les allées face à nous avec votre discours, ou est-ce que pour eux ça semble trop lointain, trop nouveau ?
Cela interpelle forcément. Alors c'est vrai que les innovations au sens large, nous à la ferme digitale, on a trois grands piliers. On parle de performance, de durabilité, de citoyenneté. C'est vrai que les startups qui sont en lien avec le grand public et les citoyens, notamment à travers la distribution alimentaire, comme au sein de la ferme digitale, La Ruche Kiwi, Comptoir Local, Lesgrappes.com et Mimosa à travers le financement participatif, cela intéresse énormément le grand public qui finalement à travers ces outils prend sa place aussi et devient acteur de son alimentation en finançant, en consommant local et durable et plein de sens. Mais ça interpelle beaucoup et c'est un des grands enjeux aujourd'hui de nos innovations, c'est aussi de responsabiliser les consommateurs.
Et le tracteur autonome, est-ce qu'on le verra un jour ?
Ah,
il existe
autonome.
Déjà. Il existe déjà,
totalement.
Justement.
En prototype ou
Non, il existe déjà. Michael, tu pourrais corroborer mes propos, mais le tracteur par guidage GPS existe dans les champs depuis des années. On n'a pas attendu la Google Car en Californie pour avoir finalement des outils qui naviguent tout seul par
mais
programmation.
Non, il n'y a pas de mais.
Il n'y a pas de mais, sauf que ça se sait peu.
Il faut quelqu'un pour le piloter, le programmer en tout cas.
Bien évidemment. L'homme est indispensable dans tout cela et c'est tant mieux.
L'homme est indispensable. La suite de Circuit Court dans un instant.
Avec
toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pensé, Isabelle Saporta est là pour vous les poser.
Et vous aussi, vous pouvez poser toutes vos questions et réagir à cette émission puisque Circuit Court en direct du Salon de l'Agriculture toute la semaine. Et bien c'est aussi à suivre en Facebook Live sur la page Facebook Europe 1.
Circuit Court en direct du Salon de l'Agriculture sur Europe 1.
Et Circuit Court, c'est jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Anne Le Gall et Sébastien Guyot.
Et on s'intéresse aujourd'hui à l'agriculture numérique. On en parle avec Michael Jacquemin d'échangeparcelles.fr, échangepatates.fr, on l'a dit, et Florian Breton, fondateur de Mimosa, une plateforme de financement participatif.
Isabelle Saporta, nos invités vous ont-ils convaincu ?
Eh bien écoutez, en fait, Michael Jacquemin, je vous ai trouvé un petit peu politiquement correct quand Sébastien Guyot vous a dit tout à l'heure, est-ce que vous remettez en cause finalement les grandes institutions en place, et vous aviez vous pensez juste une toute petite impulsion, pas plus. Si quand même, parce que change ta parcelle, ça veut dire que quand même la SAFER, donc la société d'aménagement du territoire, elle se débrouille pas bien. Sinon, en vrai, on n'aurait pas besoin d'échange la parcelle. Je vous vois faire non, mais de fait. Donc
mais
on se réjouit, on se réjouit que vous soyez là, mais on se réjouit pas tellement que la SAFER marche pas très très bien. Et d'ailleurs, du coup, j'aurais une autre petite question pour vous. Est-ce que échange ta parcelle va pouvoir nous aider à lutter aussi sur, vous savez, moi quand j'avais commencé sur le vignoble bordelais, on m'avait dit ah oui, bien sûr, les Chinois achètent les vignobles vignobles bordelais. Mais jamais, jamais les terres nourricières, ils les achèteront. Maintenant, on est à 3000 hectares. Est-ce qu'échange la parcelle, ça va pouvoir nous aider aussi à lutter contre ça? Et après, donc, pareil pour Monsieur Mimosa, donc Florian Breton.
Florian Breton.
Voilà, vous, Florian Breton, vous disiez aussi pareil, la main sur le cœur à Sébastien Guillaume. Mais non, alors attention, et à Anne Le Gall, jamais on ne concurrence les banques. Et jamais. Bah, si, en fait, vous êtes là parce que les banques ne font pas leur boulot. On peut dire les choses comme elles sont. Ils n'ont pas le courage de prêter à des projets dans lesquels ils ne croient pas. Et heureusement que vous êtes là. Donc, on se réjouit effectivement que la technologie pallie les manquements de ces grandes institutions. Mais malgré tout, il y a manquement. Enfin, pour ce qui est de l'hypertechnologisation, vous me dites souvent tout à l'heure, là, à chaque fois qu'on est en pub, et ça arrive de temps en temps quand même sur Europe 1, quoi qu'il en soit, vous me disiez, il faut qu'on parle de l'emploi. Bon, bah parlons de l'emploi, mais sauf que vous me parlez de l'hypertechnologie, Anne Le Gall, elle était toute frétillante tout à l'heure en nous parlant du tracteur, du tracteur autonome, machin. Mais sauf que si on a le tracteur autonome, la débroussailleuse à 30 000 balles et le reste, là, où elle est la main-d'œuvre? Vous me dites il faut de la main-d'œuvre, il faut donner envie aux jeunes.
Alors allons-y, Isabelle Saporta, vous avez créé des sourires crispés à nos invités. Droit de réponse, Mickaël Jacquemin.
Donc deux sujets, SAFER. Donc la SAFER, c'est une organisation
ce
qui
sont
fonctionne.
Nos amis, c'est ça que vous allez dire.
Ah oui, qui fonctionne plutôt très bien. Mais voilà. Eux, ils sont sur la notion de propriété.
C'est ça, c'est pas
ça. Et
ce
moi,
que
je suis pas sur la propriété, je suis juste sur la notion d'usage. Donc mes utilisateurs, ce sont des agriculteurs, propriétaires ou pas, peu importe. Et là, SAFER font leur travail, normalement, de mise en relation de foncier. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien. Et ensuite...
Ce sont nos amis. Voilà, SAFER, voilà. Si vous nous entendez, on vous aime.
Martin, tout le monde gagne.
Tout à fait. Ensuite, l'autre sujet, eh ben, l'agriculture recrute. Et j'ai quelques responsabilités syndicales où je m'occupe aussi justement de mettre la relation les agriculteurs.
Syndicat majoritaire.
Oui,
à la
bien sûr.
Bah,
ceux qui travaillent en fait. Et donc.
Voilà. Pof. Merci les amis de la Confédération paysanne.
Et donc, on met en relation les agriculteurs employeurs qui offrent aujourd'hui, ce sont 17 000 postes par an qui ne sont pas pourvus. C'est quand même énorme. Donc tous les ans, on passe une semaine au salon, mais dans tous les salons de France, pour le dire et le redire. Et on est donc au hall 4. Venez nous voir. C'est le stand de l'ANEFA. Et de l'APECITA. Vous y trouverez aussi des explications sur les formations, sur les écoles d'agriculture, c'est pour se former. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes se forment sur nos métiers, parce que ça recrute aujourd'hui, mais ça recrutera encore demain sur des métiers encore plus intéressants, parce que plus technologiques, et on attirera les jeunes. Et en plus, ça donne du sens à sa vie. Quand on travaille dans le milieu de l'agriculture, c'est pour l'alimentation, c'est des biomatériaux, c'est des biocarburants, c'est vraiment donner du sens à sa vie. Voilà.
Florian Breton, vous allez aussi répondre à Isabelle Saporta. Est-ce
bien
que
sûr.
Vous faites le travail que les banques ne font pas forcément
est-ce
très bien?
Est-ce qu'on bouscule les institutions? Bien évidemment, c'est pour ça que je le rappelais tout à l'heure. Est-ce qu'on intervient quelquefois en alternative? Oui. Bien évidemment, mais on remarque tout de même que peut-être à hauteur de 60 ou 70% des projets qu'on accompagne, on intervient en cofinancement. L'investissement en agriculture, c'est 11 milliards d'euros par an. C'est 14% des investissements de l'économie en France. C'est un secteur qui est très gourmand capitalistiquement. Est-ce que le financement participatif va se substituer, bien que l'épargne en France est abondante, 5 000 milliards d'euros, est-ce qu'on va se substituer aux banques? Je ne le crois pas. En revanche, est-ce qu'on bouscule l'ordre établi? Bien évidemment. Et au contraire, au contact du système existant, aussi au contact des banques, on invite les banques à diluer les plans de financement, à nous inviter à intégrer aussi, à intégrer le financement participatif et le prêt participatif dans leur démarche, tout simplement aussi pour intégrer leurs épargnants, leurs sociétaires, pour en faire des acteurs de leur alimentation directement à travers nous. Maintenant, collaborer avec les institutions en présence, c'est aussi cela qui nous permet aujourd'hui aussi d'officialiser des collaborations avec des industriels de l'agroalimentaire comme Danone, Dossi, les paysans de Rougeline pour accompagner exclusivement ce coup-ci, c'est une des grandes innovations qu'on annonce en ce début d'année, des projets de transition vers l'agroécologie, vers les énergies renouvelables sous l'angle de l'agriculture.
Vous avez compris, Isabelle Saporta, ils ne veulent pas se fâcher avec tout le monde.
Non, ils ne veulent pas se fâcher, on est d'accord. Mais ils veulent bien prendre le pognon des épargnants des banques. Hein, c'est ça que j'ai compris. C'est ça, en
sauf
fait.
Qu'on ne le stocke pas sur nos fonds propres, contrairement
non,
à une banque de dépôt,
vers
mais on l'envoie directement
on est très
vers
heureux.
Les agriculteurs.
On est très heureux pour
l'agroécologie. Une petite pause musicale dans cette émission. On rend hommage aux agriculteurs avec Gauvin Serre. Certains le comparent à Renaud. Chanson populaire engagée, casquette vissée sur la tête, voici sur ton tracteur.
Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur ?
Sur ton tracteur, c'était Gauvin Serre, extrait de l'album Pourvu, sorti l'an passé.
Nous parlons du numérique dans les fermes. Est-ce que, alors question à nos deux invités, Florian Breton et Michael Jacquemin, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'aujourd'hui le métier d'agriculteur n'a plus grand-chose à voir avec celui d'il y a 40 ans ? Michael Jacquemin.
Alors évidemment, il a évolué, plus rien à voir, je ne suis pas tout à fait sûr. On revient peut-être plus aux bases de l'agronomie. Parce qu'on va passer plus de temps à observer, parce que les nouvelles technologies vont nous permettre de dégager du temps. Et ce temps, on va pouvoir le consacrer à gérer nos entreprises, et on va pouvoir le consacrer à observer et faire plus d'agronomie. Sauf ce qu'on avait peut-être perdu avec du travail un peu des fois systématique.
D'avoir perdu le lien à l'agronomie, si un peu quand même. Ça, on peut se le dire, on est content d'y revenir aujourd'hui avec l'agroécologie.
Mais il faut dire qu'il y a eu une période où je pense que peut-être eu quelques... on nous a orientés sur des modes de production. Aujourd'hui, cette nouvelle technologie sont vraiment porteurs. Et c'est vrai qu'il y a aussi les consommateurs, les contribuables, ont peur quand l'agriculteur dit « je vais utiliser des nouvelles technologies ».
Mais je vous, aujourd'hui, pas vous passez plus de temps sur votre tracteur ou sur votre écran?
Moi, je suis un peu... globalement, plutôt devant l'écran quand même. Les nouvelles technologies en agriculture, c'est vraiment un point fort. Il faut qu'on se les accapare, il faut qu'on les utilise et il ne faut pas que les consommateurs en aient peur. Un consommateur, il cherche toujours le nouvel iPhone. Je ne fais pas de pub. Il faut toujours le dernier. Donc, c'est les nouvelles technologies. Le consommateur, maintenant, il utilise, et tant mieux, des voitures qui ont évolué en technologie, les airbags, l'assistance. Tout ça, c'est normal. Et dès qu'un agriculteur dit « moi, je vais utiliser de la nouvelle technologie pour produire mieux », pour faire la sécurité alimentaire, on a un doute. Non, il ne faut pas avoir de doute. Faites-nous confiance. Je vous assure que les nouvelles technologies vont nous aider.
Florian Breton, un petit mot de conclusion ?
Il y a l'angle de l'agronomie et puis aussi l'angle du métier en tant que chef d'entreprise. Je suis moi-même petit-fils d'agriculteur. Mon grand-père ne pratiquait pas l'agriculture comme elle est pratiquée aujourd'hui. On sent aujourd'hui que les agriculteurs sont de vrais grands chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui manipulent un certain nombre de sujets totalement différents. Et cette évolution du métier, elle est même sociale et profonde. Et même la société civile se comporte pas pareil aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est pour cela que il faut faire attention à l'idéologie quelquefois qu'il y a. La révolution verte a fait le job pendant un certain nombre d'années. Désormais, et c'est tant mieux, la pratique de l'agronomie prend le dessus et le numérique vient accélérer tout cela. Et on est très heureux en tout cas de pouvoir soutenir et accompagner la renaissance de ce secteur.
Un grand merci à nos deux invités, Michael Jacquemin, agriculteur fondateur du site échangeparcelle.fr et vice-président de l'association CoFarming, et Florian Breton, petit-fils d'agriculteur, start-upper, fondateur de Mimosa et de la ferme digitale. Bonne journée à tous les deux.
Et Circuit Court continue dans un instant en public, vous l'entendez, avec le portrait et le coup de main. À tout de suite.
Et vous pouvez suivre le portrait et le coup de main de Circuit Court en direct et en vidéo sur la page Facebook d'Europe 1.
Circuit Court en direct du Salon de l'Agriculture sur Europe 1.
Circuit Court, c'est tous les jours en direct du Salon de l'Agriculture jusqu'à vendredi et jusqu'à 14h. Avec vous, Anne Le Gall et Sébastien Guyot.
Le portrait.
Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un cultivateur de quinoa équitable. Il s'agit de James Livingstone Wallace.
Oui, aujourd'hui on parle du quinoa du Pérou. Vous savez, cette petite graine qui est de la famille de l'épinard, riche en fer et en protéines complètes. Et cet ancien financier britannique, blond aux yeux bleus, s'est lancé dans cette aventure à 40 ans, il y a tout juste 6 ans, lors de sa crise de la quarantaine, comme il dit. Et il a lancé son entreprise Quinola Mother Grain, qui est équitable dans le sens où justement elle soutient une coopérative de petits agriculteurs péruviens au sud du Pérou à 4000 mètres d'altitude près du lac Titicaca. Elle compte aujourd'hui près de 500 familles et chacune détient entre 2 et 3 hectares. Lancée en 2012, sa société compte aujourd'hui 8 salariés entre Paris et Londres et ils produisent 700 tonnes de quinoa bio par an. Et ce changement de vie l'a eu lors de la crise financière en 2011. Après avoir justement rendu les riches plus riches pendant 20 ans, il a décidé de mettre son talent au service des pauvres pour les rendre plus riches, et c'était tout le but justement de son tour du monde.
Il y a eu un plan de départ volontaire que j'étais un des premiers à lever moi-même. J'ai sorti mes 3 enfants de l'école avec l'idée de partir voyager autour du monde pendant un an et trouver un produit que je pourrais commercialiser dans le contexte du commerce équitable.
Alors Cyrielle, dites-nous concrètement, le commerce équitable, ça change quoi dans la vie de ces communautés péruviennes ?
Alors justement, ces communautés péruviennes ont un prix minimum garanti qui est près de 3 000 $ la tonne, hein, soit à peu près 50% dessus du prix du marché actuel. Depuis 6 ans, l'entreprise a financé plus de 250 000 euros de revenus supplémentaires en leur permettant notamment d'acheter 2 tracteurs pour remplacer le bœuf et la charrue et gagner du temps. De la finance au commerce équitable, une nouvelle vie d'entrepreneur dans laquelle James Livingstone Wallace est épanoui aujourd'hui.
Ça me stimule énormément. Je suis sur une courbe d'apprentissage quasiment verticale depuis 5 ans. Et surtout, chaque fois que je retourne au Pérou, où j'y vais au moins une ou deux fois par année, c'est génial d'aller rencontrer les producteurs qui disent « c'est fabuleux ce que vous êtes en train de faire ». Et que les gens maintenant nous connaissent en Europe.
Et justement, James Livingstone Wallace est fier de promouvoir une alimentation plus saine car il rappelle que les protéines du quinoa sont les mêmes que celles du lait et l'empreinte carbone de la culture du quinoa est assez faible et pour lui, le changement passe aussi par l'assiette.
Merci Cyrielle Ariel.
Circuit court en direct du Salon de l'Agriculture sur Europe 1.
Et à 13h56, juste avant 14h, donc, notre coup de main du jour avec Paul Lassène. Bonjour Paul.
Bonjour.
Et le coup de main, c'est donc pour...
Alors aujourd'hui, c'est mon beau terroir que j'ai décidé de mettre en avant. Cette start-up vous propose d'aller à la rencontre d'agriculteurs, de leurs exploitations et de leurs produits. Le concept est plutôt simple pour nous consommateurs. Vous vous rendez sur le site internet, vous choisissez une exploitation agricole près de chez vous et pour seulement 15 euros en moyenne, vous visitez l'exploitation que vous avez choisie.
Donc on peut visiter et déguster ?
Exactement, et vous avez 80 exploitations qui travaillent avec mon beau terroir. Et pour les produits et les lieux à découvrir, c'est Antoine Laudet, cofondateur de la start-up, qui vous fait un petit listing.
On peut aller découvrir une ferme souterraine sous la porte de la chapelle qui fait différents types de champignons et de micro-pousses et donc découvrir cette production dans un endroit complètement atypique, un ancien parking. Donc ça, c'est intéressant. Si on va en Rhône-Alpes, on peut aller découvrir la ferme des Délices de Belledonne qui fait des glaces et des sorbets avec les produits de la ferme et on participe à la traite. On peut aller faire un safari nocturne d'escargots chez Olivier qui fait des escargots toujours en Isère. On peut, du côté d'Annecy, aller découvrir la production du reblochon à la ferme de Pézières et du côté des Pays de Loire, découvrir la production du muscadet. C'est aussi varié que le terroir l'est.
Alors des produits du terroir variés, vous l'avez entendu, que vous découvrez sur leur lieu de production, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer ceux qui les cultivent.
Safari nocturne avec les escargots, ça donne envie, on a compris l'intérêt. Quel est l'intérêt pour les agriculteurs ?
Alors les visites, ça leur permet bien sûr de gagner de l'argent. L'entreprise leur assure aussi une formule clé en main où ils ont juste à recevoir les visiteurs et ça permet aux gens de mieux appréhender les produits qu'ils consomment.
Et là, le sens, c'est de faire en sorte que les producteurs rencontrent les consommateurs et que enfin les gens comprennent qui produit, ce qui nourrit. Et on a des discussions de temps en temps avec des producteurs et qui nous disent bon bah moi je passe ma journée dedans, je peux avoir du mal à imaginer que ça peut intéresser. Et c'est là qu'on leur dit ça intéresse les gens et du coup ça met en valeur votre travail. Un producteur nous a dit une fois j'ai eu une famille et le petit dernier a demandé comment est-ce qu'on faisait pousser les nouilles. Donc à partir de là, nous on se dit quand on entend quelque chose comme ça, il faut vraiment remettre du lien et réexpliquer et faire rencontrer les producteurs, les consommateurs, parce que faire pousser les nouilles c'est quand même caustique.
Et le but maintenant pour Mon Beau Terroir, c'est de développer le concept à plus grande échelle et toucher plus de producteurs et de pourquoi pas permettre aux consommateurs d'avoir plus que quelques heures pour découvrir le métier d'agriculteur.
Merci Paul Lassène pour cette très bonne idée dénichée dans les salons, dans les couloirs du Salon de l'Agriculture. À demain Paul.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain, toujours en direct de cet espace France Terre de Lait au Salon de l'Agriculture. Demain, nous verrons que l'agriculture sans pesticides, c'est possible. Merci beaucoup Sébastien Guyot.
Merci Anne Le Gall, merci à toute l'équipe de Circuit Court. À demain. Et bonjour Franck Ferrand dans les studios de la rue François 1er.
Bonjour Sébastien, je vous emmène aujourd'hui dans l'Obersalzberg à côté de Berchtesgaden qui était la résidence d'Adolf Hitler.
Franck Ferrand au cœur de l'histoire juste après le flash de 14h.